Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons continuer l'étude des 37 pratiques de Bodhisattva. De commencer par entrer en refuge et d'éveiller la motivation que Bodhicitta. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge. Par les bienfaits, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Nous avions préalablement vu les premières stances de Bodhicitta et l'échange de soi et d'autrui. Nous allons maintenant voir les applications. Bodhicitta en application dans des circonstances difficiles et particulières. Dans l'entraînement du cœur et de l'esprit, une maxime dit « Alors que le monde est plein de maux, sache transformer les circonstances adverses en voie d'éveil. » Donc nous allons voir comment des circonstances que l'on aurait a priori tendance à considérer comme adverses peuvent être intégrer et transformer en voie d'éveil. Comment le sont-elles? Dans l'abnégation altruiste, dans une capacité à voir l'inanité de la saisie égoïste et la possibilité d'une pensée, d'un souhait, d'un mouvement altruiste et bienfaisant. Alors, nous allons, et ce sont les stances 12, 13, 14, 15 déjà, voir que faire des situations extrêmes. La 12 dit « Quiconque, sous l'influence d'une irrésistible convoitise, viendrait à voler ou faire voler toutes mes richesses, lui dédier mon corps, mes possessions et mes vertus dans les trois temps, telle est la pratique d'un bodhisattva. » Quiconque, sous l'influence d'une irrésistible convoitise, viendrait à voler, à faire voler toutes mes richesses, lui dédier mon corps, mes possessions et mes vertus dans les trois temps, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc, si quelqu'un venait à me voler, à me faire voler complètement, savoir encore lui dédier mon corps, mes possessions et toute vertu dans les trois temps, telle est la pratique d'un bodhisattva. Vous vous rendez compte? on se fait voler et déjà là, on dédie, on offre au voleur ce qui nous a volé, ce qui somme toute peut le libérer d'un certain karma négatif. Mais à ce démon voleur, encore savoir tout lui donner, moi, corps, possession, vertu, dans les trois temps, tout donner, tout abandonner à ce voleur, tel est l'abnégation, le non-attachement, la générosité et la bonté d'un bodhisattva. Face à l'adversité et aux passions, avec leurs actes négatifs, le vol, il répond avec compassion, au-delà de tout attachement. Voilà la stance 12. Y a-t-il des remarques, des observations ou des questions?
Bonsoir, Mboche. Je comprends dans le principe. Je comprends. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit on le fait, parce que des fois j'ai l'impression qu'on peut le faire, mais en même temps, est-ce que c'est bon de le faire si au final on se sent pas de le faire? Je trouve que dans beaucoup de choses comme ça, ça peut me paraître être un peu de... Je sais pas, il peut y avoir beaucoup d'émotivité, de sensiblerie dans le fait de donner plus, allez-y, mais en même temps, on ne le sent pas au fond de nous. Donc,
Mais là, comme on donne tout, il faut vraiment le sentir. Si on ne le sent pas, on ne va pas le faire. Hein. c'est au-delà de quelque chose de forcé. Mais c'est une façon d'exprimer le non-attachement, complet, et une expression de bienveillance altruiste.
J'aurais une question par rapport à cela. En fait, est-ce que donner ses biens, ça nous permet de cultiver le non-attachement, ou donner ses biens, c'est une conséquence du non-attachement? Et dans ce cas-là, comment pratiquer ou comment intégrer le non-attachement dans sa vie, peut-être par des exemples concrets?
Oui. Le don demande du non-attachement. Et aussi fait cultiver le non-attachement. Pour cultiver le non-attachement, il est bon de savoir donner. Si... d'apprendre à donner. C'est quelque chose de aussi de très culturel. on ne donne pas souvent, pas beaucoup. On apprendre à offrir, apprendre à donner, donner de l'attention, un sourire, de son temps, donner à boire, à manger, un bisou, un trisou, donner plus il y a d'attachement, moins l'on a tendance à donner. C'est une... C'est un geste qui est libérateur et qui aussi, paradoxalement, amène la richesse. Une richesse intérieure, une richesse qui est dans le non-attachement, justement. L'attachement conduit au manque, le non-attachement libère du manque. Et le bodhisattva va jusqu'au bout dans le non-attachement, c'est ce qu'exprime cette stance dans la situation du vol. Et cela continue, s'il n'y a pas d'autres questions.
Moi, je veux bien une dernière petite précision. On peut avoir l'habitude de dire oui en rendant des services, par exemple. Et puis, les personnes à qui on rend des services, ça devient quelque chose d'habituel. Et en fait, un service qui a été rendu une fois, deux fois, devient une sorte d'habitude. Et la personne qui rend ce service-là peut se sentir à un moment donné étouffée. C'est-à-dire que c'est devenu une chose habituelle, en fait. C'est-à-dire que d'un service de temps en temps, ça devient une habitude, comme quoi, si c'était un dû. Et à quel moment est-ce que le bodhisattva, bah, il se laisse manger, ou à un moment donné, il dit « Oh, stop !» parce que...
Le bodhisattva sans attachement n'est pas attaché à faire ou à ne pas faire. Il fait ce qui est bon, mais sans attachement et sans compassion stupide. Il y a là une difficulté. Il est dans le non-attachement nécessaire d'être prêt à tout perdre, à tout donner, sans rien retenir. Il y a cette attitude d'abandon, de lâcher prise radicale. Mais ce n'est pas être conditionné dans une obligation et dans une contrainte normative. Et il y a dans ce non-attachement une liberté complète et qui, associée à une intelligence et un discernement, n'abandonne pas, n'abonde pas dans la névrose et n'ira pas nourrir la névrose d'un parasite ou d'un profiteur. Ça serait pas bon pour lui. Ça serait pas bon. Donc, ça n'est pas bon de laisser les personnes se faire du mal, somme toute. Et un bodhisattva, c'est aussi rectifier, dire non, et encourager ce qui est bon, et décourager ce qui est mauvais, dire oui, dire non, et gentiment, avec le sourire. Et d'une façon qui soit par la même aussi formative, éducative pour la personne concernée. Et de s'exprimer d'ailleurs, parce que l'ouverture permet l'expression. Dans la situation que vous exprimez, la personne qui fait cela, il y a beaucoup de chances qu'elle ne se soit même pas rendue compte de ce qu'elle fait. Elle est... ça, bon. Et puis, oui. Et puis, mais sans être rentré, sans s'être mis à la place de l'autre, c'est-à-dire la vôtre. C'est bien de lui dire, peut-être de lui parler. Et, tu sais, et de dire ce que l'on ressent. Parce que si on dit à la personne, tu fais ceci, tu m'as, et puis voilà, c'est un jugement, elle le prend comme une accusation. Comme une remontrance. Donc, plutôt que de lui dire tu, parler à la première personne, je suis un petit peu mal à l'aise parce que, bon, là, ça fait plusieurs fois que tu me demandes ceci ou que tu me demandes cela. Je l'ai fait une fois, c'était sympathique, mais là, une fois, tu m'as dit, tu me passes 100 balles. Je l'ai fait, mais tu me le demandes tous les jours. Qu'est-ce que tu en penses? La personne a dit, ah, tu crois? Et puis voilà, en tout cas, bon, je veux bien encore aujourd'hui, mais c'est le. Et puis peut-être qu'on pourrait coopérer. Et les stratégies de coopération sont des stratégies gagnantes. Mais il y a des principes qui sont aussi des principes de Bodhisattva. On fait le premier pas et on abonde, mais dans une pratique coopérative, il faut qu'il y ait aussi de la part de l'autre une ouverture et une coopération qui permettent d'instaurer un échange et une boucle. Donc, si accueillir, offrir ne fonctionne pas, si c'est unilatéral, ça n'est pas viable, ça n'est pas sain. Donc, en fait, une fois, éventuellement deux fois, mais après, c'est important. S'il n'y a jamais de sensibilité, ce n'est pas d'attendre d'un retour, bien qu'il y ait la nécessité d'une ouverture. Ben, on ne continue pas. On ne continue pas. Et puis si la personne dit ah, « ben pourquoi tu ne continues pas ?» Parce que je me suis fatigué. Et parlons-en. Et souvent, voilà. Mais le Bodhisattva, là, dans nos exemples, il est radical. On continue, parce que... Derine.
Excusez-moi, Christian Ranten de Grenoble vous demande si vous pourriez expliquer de nouveau l'attachement. Qu'est-ce que ça signifie? Et si, par exemple, il est donneur d'organes, est-ce que ça rentre dans la définition?
L'attachement, c'est être attaché. Être attaché, c'est être lié. On est lié, on est possédé par ce que l'on possède. Et l'attachement est ainsi quelque chose qui nous lie, qui nous tient prisonniers. Le non-attachement est une liberté. Pour ce qui est du don d'organes, c'est une grande générosité. Et c'est un geste et un acte de bodhisattva. La 13, prendre sur soi les actes nuisibles. Si quelque personne désirait sans raison me trancher la tête, bien que je ne lui ai jamais causé le moindre désagrément, par compassion, prendre sur soi ces actes nuisibles, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc même si une personne à qui on n'a jamais rien fait veut nous faire le pire et nous couper la tête, encore, par compassion, prendre sur soi ces actes nuisibles de nous couper la tête, telle est la pratique d'un bodhisattva. Là, le bodhisattva n'est vraiment pas dans l'attachement. Et il est vraiment dans la bonté ultime et extrême de prendre les négativités de celui qui nous tue sans raison. Jamian.
Oui, j'aurais voulu parler de l'orgueil. Souvent, quand on prend les actes, bon, qu'on peut faire tonglen avec quelqu'un qui nous a fait du mal ou quoi que ce soit, il y a souvent une pointe d'orgueil qui remonte à la fin, genre je suis meilleur que toi. Est-ce que ça annule tout le reste ou comment ça se passe?
L'orgueil. On peut faire des choses extravagantes par orgueil, de façon ostentatoire. Mais là, par orgueil, prendre sur soi les actes nuisibles de celui qui nous tranche la tête, je pense que c'est au-delà de l'orgueil.
C'est pas vraiment ça, c'est le faire avec... avec une certaine authenticité, mais derrière il y a le commentateur qui vient remonter un peu, enfin qui vient mettre une petite pointe d'orgueil.
Bien sûr, bien sûr. C'est bien de faire des choses bien, même si l'on s'en enorgueillit un petit peu. C'est mieux de les faire sans s'enorgueillir, et c'est parfait de les faire sans espoir et sans crainte, et libre de tout attachement. Mais c'est pas parce qu'il y aurait un petit peu d'orgueil qu'il ne faille pas commencer. Quatorze. C'est une instance très... Si quelqu'un proclamait partout dans le monde entier une multitude de choses négatives à mon sujet, louer avec amour les qualités de cette personne, telle est la pratique d'un bodhisattva. Celui qui vous calomnie partout, sans raison. Répondre à la calomnie, à ces calomnies, sachant encore louer cette personne et vanter avec amour ses qualités, telle est la pratique d'un bodhisattva. Cette abnégation, c'est ce que vous en dites. C'est pas facile d'être bodhisattva, mais si on comprend, il y a quelque chose de très profond, de ne à sentir là-dedans. Et si quelque individu, en plein milieu d'une nombreuse assemblée, venait à clamer mes défauts et dire de mauvaises paroles, considérer cette personne comme un ami spirituel, telle est la pratique d'un bodhisattva. Hein? Si un kidam venait m'insulter en plein milieu d'une nombreuse assemblée, disant mes défauts et de mauvaises paroles, voir cette personne comme celle qui vient nous inviter à pratiquer la patience, la transparence. La compassion, si elle n'était pas là, cette personne qui nous insulte, on n'aurait pas l'occasion, on n'aurait pas la possibilité. C'est donc elle qui me permet de m'éveiller ainsi. Elle est assurément comme l'émanation d'un Bouddha, et la remercier comme un guide spirituel qui vient nous encourager et nous inciter à la vertu, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous insulte ou qui vous dit des choses désagréables, je te remercie d'être pour moi ainsi un véritable guide.
Rinpoche?
Oui.
Mais je comprends qu'il y a une transformation de notre attitude et de notre état d'esprit, mais après, dans les faits concrets, où est la justice? Quand on se fait régulièrement insulter, il y a quand même un moment où il faut dire stop et se défendre. Enfin,
c'est comme la question tout à l'heure de Kadam, qui est cette abnégation complète, ce lâcher prise complet. Et la faculté de répondre positivement à une parole négative ou de façon généreuse à un vol. Donc, plutôt que d'être dans la œil pour œil, dent pour dent, et savoir donner du bon, même si l'on a reçu du mauvais. Telle est la pratique d'un bodhisattva. Mais ça ne veut pas dire que le bodhisattva est maso et qui va donne-moi encore. Le bodhisattva a cette liberté, ce non-attachement, cet amour, cette compassion, mais il a aussi du discernement. Et comme nous le disions tout à l'heure, ça serait même pas véritablement compatissant que de laisser des personnes avoir répétitivement des comportements négatifs, même si on les prend sur soi. Ça n'est pas possible vraiment de les en libérer, donc ce serait pas compatissant de les laisser faire. Donc, certaines fois aussi, stop. Mais comme on le disait tout à l'heure, il est possible de discuter, d'ouvrir la discussion. C'est toujours l'activité éveillée pacifie et ouvre dans une situation difficile. Répondre à un méfait par un bienfait, c'est aussi de d'ouvrir la situation, de pacifier, parce que en donnant du bon face au mauvais, de calmer le jeu, de pacifier. Et ensuite d'ouvrir, d'écouter, d'apporter, d'enrichir la situation, de permettre à celle-ci qu'elle se développe, qu'elle évolue. Certainement. Et là, dans ces attitudes de compassion ou d'abnégation extrême, on n'est pas du tout masochiste ni doloriste à la recherche des problèmes, mais c'est une faculté à intégrer la négativité de façon positive, à intégrer les difficultés qui arrivent de toute façon. et dans la liberté de ce non-attachement, à y répondre de façon saine. D'autres...
Oui, il y a une question de Sébastien de Beaujolais.
Sébastien, bonsoir.
En fait, le lien entre être bodhisattva et la radicalité, est-ce qu'on peut être un véritable bodhisattva sans être radical?
Un bodhisattva est radical. Mais il n'est pas fanatique. Et il y a une grande différence. Radical, c'est de couper à la racine. Être coupé radicalement. Le bodhisattva coupe l'attachement radicalement, il coupe ou il arrête l'illusion radicalement. Non, non. Il a une attitude qui va jusqu'au fond. Donc, aller au fond, c'est être radical. Hein? À la racine, au fond. Et sans peur. Le bodhisattva est vaillant. Il n'est pas timoré, il n'est pas pleutre, il n'est pas peureux. Et tant qu'il n'a pas peur de plonger et d'aller au fond ou d'aller à la racine, il plonge avec le couteau entre les dents. Et il est courageux et donc il a cette radicalité, ce courage. Mais le bodhisattva a l'intelligence et le discernement qui fait qu'il n'est pas extrémiste au sens où il n'est pas radical par rapport à des idées fixes, à des idéologies, par rapport à des croyances. L'extrémisme, c'est l'adhésion extrême à une conception, à une notion conceptuelle. Le bodhisattva n'est pas du tout extrémiste. Et s'il est radical, c'est même pour abandonner non seulement les vues extrêmes, mais même toutes les saisies conceptuelles. Donc, c'est pourquoi le bodhisattva n'est pas extrémiste, mais est radical. Radical pour éradiquer l'ignorance, l'illusion et les passions, pour éradiquer la saisie du moi. Et c'est là la racine qu'il va trancher au fond. S'il vous plaît, Derine.
Une remarque de Sonam Namgal d'Alvar.
Sonam d'Alvar. Si.
Et il est dit en psychologie que le fait d'exprimer de la gratitude est libérateur des attaques verbales que l'on peut parfois subir.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Et c'est... on se fait attaquer verbalement, on se fait traiter de tous les noms, et je te remercie. je voudrais t'exprimer vraiment ma gratitude parce que ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment donné l'occasion de pratiquer la patience. Mais d'exprimer du bien, du bon, c'est libérateur, tout à fait. Et si l'on reçoit plein de paroles désagréables, dire des paroles agréables, c'est gratifiant. C'est gratifiant, certainement. Oui, s'il vous plaît.
Ça, c'est une remarque personnelle. Très souvent, bon, j'ai un caractère assez émotionnel et quand on me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre, ça me monte des émotions assez fortes et j'avais trouvé une chose à faire, c'est d'exprimer l'émotion que je ressens. Et c'est comme si on dit donner le nom au démon, en fait, il y a tout qui diminue.
Oui. De nommer l'émotion, de nommer ce que l'on ressent, est une bonne façon de faire.
Et ça permet aussi de détourner l'attention, en fait, de se reconcentrer sur ce qu'on sent soi-même plutôt que d'être dans la réactivité.
Ça démonte la boucle de construction de l'émotion qui demande de s'investir. Et là, le fait de prendre une certaine distance pour nommer ce qui se passe amène à des investissements. C'est vrai. C'est comme ce que l'on apprend à faire lorsque l'on pratique la pleine présence en nommant les pensées, ou en nommant les émotions. C'est l'étiquetage des pensées ou des émotions qui est une façon, une très bonne façon de ne pas de leur donner suite et d'amener ce décrochage ou ce débrayage qui déconstruit, déstructure ou défait l'émotion. L'émotion se construit en embrayant dessus et si l'on débraye, la soupe au lait redescend. Bien.
J'ai encore certaines questions. C'est une question de nouveau de Sébastien. De David, pardon, de Cluny. C'est assez complexe de vouloir aider son prochain quand on n'a pas vraiment conscience de ses propres névroses. Comment bien le faire ?
La séquence de l'apprentissage commence avec soi. Et nous en avions parlé. Lorsque l'on pratique accueillir, offrir, il est important de commencer avec soi, de le faire avec soi, en s'accueillant et en se donnant à sa bonté fondamentale. Mais en s'accueillant, c'est-à-dire en accueillant ce qu'habituellement on n'a pas vraiment l'habitude ou envie d'accueillir de nous-mêmes, nos névroses, nos côtés sombres, obscurs. Donc, d'être capable de voir, plutôt que de les refouler, de les voir, de les accueillir. Et de même les laisser se libérer. C'est ce que l'on fait dans l'assise, c'est ce que l'on fait dans la pleine présence, c'est ce que l'on fait aussi d'une façon plus spécifique avec tonglen lorsqu'on le pratique avec soi-même. Donc oui, c'est nécessaire, oui, c'est très important. Et commencer par là.
Une question de Colette de Chambéry.
De crevette.
Colette.
De Colette.
Colette de Chambéry. Excusez-moi. Est-ce que c'est pas normal en fait d'être attaché à sa propre famille? Et je rajouterais, comment pratiquer le non-attachement dans sa famille en fait?
On est lié à ses proches et on a des liens affectifs particuliers, mais l'attachement vis-à-vis de ses proches, là aussi, est une mauvaise attitude qui est source de conflits, de problèmes et de souffrances. Il ne faut pas confondre amour et attachement, et c'est là qu'est le problème. Et le véritable amour, y compris par rapport à ses proches, et c'est les personnes qui sont les plus proches de nous, est libre d'attachement. Alors, il est peut-être difficile de sentir ce qu'est un amour sans attachement, un amour sans possession, un amour sans possessivité, un amour inconditionnel, sans attente, sans espoir. L'amour est dans l'empathie, dans la communion, dans l'empathie. On pourrait dire dans le cœur, et l'attachement est dans la tête, d'une certaine façon. L'attachement est mental, le sentiment est dans le cœur. Le non-attachement est très fort, une attitude de cœur au-delà au-delà du mental. L'amour a des raisons que la raison ne connaît pas. S'il vous plaît.
Une dernière question de Laudrema de Lyon. Est-ce que le mariage est un attachement?
Dans des représentations médiévales, on voit les mariés qui sont attachés par des chaînes. Ils ont des fers comme ça, des gros fers, des chaînes, et c'est une façon d'exprimer le lien effectible entre un homme et une femme, en général. Euh, Alors, tout dépend ce que l'on entend par mariage. Le mariage peut être un compagnonnage d'amour. Et c'est très bien. Il a facilement tendance à devenir un contrat de propriété. Auquel cas, c'est clairement un attachement. Voilà l'autre main, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il n'y a pas de réponse pour le moment.
Donc, je propose que nous concluions par un petit moment de contemplation. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir, bonne soirée, que tout soit propice et au revoir.